J'ai plaqué mon chêne comme un saligo, mon copain le chêne, mon alter ego. J'ai maintenant des frênes, des arbres de Judée, tous de bonnes graines, de haute futée.
Palabre en forêt, l'émission Lozéro Gardoise
qui dévoile et décrypte
l'actualité de nos forêts et de la filière bois.
Les initiatives locales et les actions d'ici et d'ailleurs sur la forêt.
Rendez-vous
à mardi sur deux
à 10h sur Radio Bartas 107FM.
Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner.
Et vous êtes bien sur Palabre en forêt, l'émission qui parle de forêt. Bonjour Virginie.
Bonjour Nathalie.
Alors notre première émission de la saison 2020-2021, je suis très heureuse d'être là.
Et pardon, avec vous.
Et donc, et pour cette première émission, nous allons faire nous allons poser des questions à un animateur de charte forestière qui est sur l'Aude.
Oui,
si
on va voyager.
On va voyager un petit peu et qui va nous parler un peu de son métier et puis de ce qu'il aime en forêt. Et puis ensuite, on ira voir Aymeric.
Oui, qui nous présentera encore une plante des bois. C'est un rendez-vous maintenant...
incontournable de Palabre en forêt.
Voilà.
Peux-tu nous rappeler d'abord ce que c'est qu'une charte forestière avant de poser des questions à Alexandre, Virginie?
Mais tout à fait, Nathalie. Une charte forestière, bon, qu'est-ce que c'est? C'est un petit peu la feuille de route décidée par des élus qui décident de travailler avec les acteurs forestiers, les acteurs du développement, pour essayer d'avoir une ligne de conduite pour la forêt d'un territoire pendant au moins 3 ans. Et donc la charte forestière, elle sert à faire du réseau, du lien entre les acteurs, parce que bien souvent, bon, on se dit, oui, c'est peut-être pas très utile, mais si, au quotidien, il y a du mal à faire du lien entre les actions, entre les acteurs, et du coup, la charte forestière permet un petit peu de se donner une visibilité du lien, et des résultats, surtout, d'où la nécessité, voilà, d'avoir une politique au travers d'une charte forestière. En fait, une charte forestière, c'est la politique forestière d'un territoire. Et voilà.
Et on a un animateur pour cette charte forestière.
Totalement.
Et donc là, on va accueillir donc Alexandre Lézé. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Donc Alexandre, il est au téléphone, hein, parce que nous ne sommes pas déplacés, même si ça aurait été bien. Est-ce que tu peux d'abord te présenter, dire ton parcours, tes formations, tes postes, et surtout pourquoi tu as postulé pour être animateur de charte forestière? Parce que bon, on se demande.
Un peu fou quand même. Hein.
D'accord, donc bonjour à tous nos auditeurs et toutes nos auditrices. Merci de m'accueillir dans cette émission. Moi, je m'appelle Alexandre Lézé, j'ai 32 ans. Je suis ingénieur forestier de formation et donc j'anime la charte forestière de la Haute-Vallée de l'Aude. Alors moi, j'ai un parcours assez classique d'ingénieur forestier. Donc j'ai fait la formation des ingénieurs forestiers à ce qu'on appelait avant l'ENGREF, l'École nationale du génie rural des eaux et des forêts, qui se trouve à Nancy, et qui maintenant a été rebaptisé AgroParisTech. Et suite à cette formation, moi j'ai commencé à l'Office national des forêts, dans les DOM-TOM, plus précisément à Mayotte, où j'avais un poste, on va dire, j'ai fait beaucoup de terrain, j'ai pas mal sué sous ce climat tropical. J'ai travaillé sur des plans de gestion de forêt, voilà, des études naturalistes, voilà, un peu sous la canopée. Et puis, quand mon contrat s'est terminé à Mayotte, eh ben, j'avais l'opportunité et l'envie un peu de rentrer en métropole pour travailler sur un territoire où, on va dire, où la filière forêt-bois est un peu plus structurée que dans les DOM-TOM qu'à Mayotte, où c'est encore un peu les balbutiements d'une vraie filière forêt-bois. Et puis il y avait une envie, cette envie professionnelle, puis personnelle aussi, puisque ma compagne avait une opportunité pour rentrer travailler en métropole. Et puis c'était fin 2015, début 2016, et c'était un petit peu la mode des chartes forestières. Il y a pas mal de chartes forestières qui se sont lancées à ce moment-là. Et puis je trouvais ce type de poste assez intéressant, parce que c'était assez diversifié dans ses missions. Et puis après... Après un poste très forestier au sein de l'ONF, je voulais voir un petit peu quelque chose d'autre. Et puis ce que je trouvais intéressant, c'est une mission où on discute en fait avec tous les maillons de la filière bois. Depuis, euh, depuis le gestionnaire forestier, en passant par l'exploitant, le bûcheron, jusqu'à la scierie et au charpentier. Et on travaille aussi beaucoup avec les associations qui interviennent dans les milieux naturels. Et puis on travaille en lien étroit avec les élus et l'administration. Et donc, bon, c'était intéressant de découvrir tout cet univers. Et puis voilà, et puis j'ai postulé parce qu'il fallait trouver un travail et il faut bien manger dans la vie.
Donc, voilà. Ouais. Et tu n'as pas été déçu?
Non, parce que c'est vraiment... moi qui ai une formation très forestière, en fait, même si au cours de ma formation et lors de mon premier poste, on essaie de nous présenter une vision un peu globale de la filière. Hein. On nous dit, voilà, vous êtes maintenant, vous êtes forestier, mais vous travaillez un petit peu au sein d'une filière très, très diversifiée, hein, avec des métiers très différents les uns des autres, mais on travaille tous pour le bois, pour la valorisation du bois et en respectant le milieu forestier. Et en fait, finalement, mais j'avais pas, on n'a pas de lien lors de notre formation ou au sein de l'ONF, de lien très étroit avec les autres pavillons de la filière. Et du coup, finalement, c'est hyper intéressant de découvrir tous ces milieux, toutes les problématiques du métier de charpentier ou de menuisier pour s'approvisionner en bois local, les difficultés des élus à construire en bois local, de parler avec des gens qui ont des visions très différentes de la forêt, de celle que peut avoir un forestier professionnel. Donc sur ce point de vue-là, non, pas déçu du tout. Et puis on intègre un réseau d'autres animateurs de chartes forestières qui sont des personnes très intéressantes avec des profils aussi assez différents. Donc c'est très enrichissant comme expérience.
Très bien. Et donc toi, tu es animateur sur la charte forestière de la Haute-Vallée de l'Aude. Donc, est-ce que tu peux un peu nous présenter ton territoire, présenter la charte forestière et peut-être décrire ensuite une action un peu particulière qui te tient un peu à cœur?
Ouais. Alors, la Haute-Vallée de l'Aude, c'est en Occitanie. Et pour ceux qui voient, c'est le territoire qui est au sud de Carcassonne. En fait, c'est sur le territoire des villes, pour ceux qui connaissent, de Quillan et de Limoux.
La
blanquette. Alors, pas la spécialité à base de veau, mais plutôt la boisson pétillante à base de raisin. Donc, et c'est un territoire, donc on est sur le piémont des Pyrénées, et sur la partie orientale des Pyrénées, sur le piémont. Et en fait, on est vraiment à la croisée des climats méditerranéens, montagnards, et on a encore une influence du climat océanique, ce qui fait qu'on a une forêt vraiment très diversifiée. On a des peuplements vraiment très différents, et du coup, c'est vraiment joli et très intéressant pour un forestier. Et c'est un territoire qui est couvert à plus de 65% par la forêt. Donc c'est vraiment un territoire très forestier, avec encore... pas mal de professionnels et d'artisans. On a trois scieurs sur le territoire, on a pas mal de charpentiers et de menuisiers.
Je te coupe deux secondes par rapport aux auditeurs, pour leur faire représenter donc 65% de forêt dans la Haute-Vallée de l'Aude. Nous, on est à peu près à ce niveau-là, oui. On peut atteindre même 70-80% dans certaines communes, voilà, sur les Cévennes. Voilà. Mm-hmm.
Sachant que je crois que à l'échelle nationale, on est en moyenne, on n'est pas 100, à ce niveau-là. 50, donc, on est vraiment des territoires qui sont très forestiers.
En même en dessous.
Ouais. Donc, d'où l'intérêt d'avoir une charte forestière qui regroupe un petit peu tous les partenaires sur ce territoire. Alors, nous, justement, avec tous ces climats, sur le piémont des Pyrénées, on va dire l'essence, donc l'arbre emblématique, c'est vraiment le sapin. On a vraiment le sapin de l'Aude qui est un petit peu, l'arbre qu'on trouve le plus en termes de surface et en quantité sur le territoire, donc qu'on utilise pour la construction. Et en fait, c'est un sapin assez particulier parce qu'on le retrouve très bas en altitude. Donc il a quand même assez l'habitude d'avoir des petits coups de chaud l'été. Et d'ailleurs, il est tellement particulier qu'aujourd'hui, l'ONF teste dans le Grand Est, dans les Vosges ou quoi, teste des reboisements avec ce sapin en prévision du réchauffement climatique.
Et peux-tu nous donner son petit nom précis?
Son
petit nom précis.
Son petit
au sapin.
Petit nom,
du sapin. Bah ouais. Oui, parce qu'il y a du sapin pectiné.
Voilà. C'est le sapin pectiné. Pardon.
Ah voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Ok.
C'est le sapin pectiné.
On en a un petit peu par ici, ouais.
Sur les hauteurs du Gard.
D'accord. Ouais. Bah nous, voilà, c'est vraiment l'arbre roi du territoire, quoi. Hein, tout. Et alors bien sûr, avec le sapin, on a pas mal de hêtres qui ici est surtout utilisé pour le bois de chauffage, mais un petit peu aussi pour certaines pièces de menuiserie. Et après, on a par contre aussi énormément de pins sylvestres, donc qui ont repoussé sur d'anciennes terres agricoles qui ont été abandonnées. Donc on a pas mal de pins, mais également du coup des chênes méditerranéens sur certaines parties du territoire, aussi sur on peut avoir aussi pas mal de châtaigniers et quelques douglas, des cèdres qui ont été plantés et puis pas mal d'autres essences qui ont été plantées pour faire des tests justement sur d'anciennes parcelles agricoles. Et certains se sont plus, d'autres moins. Mais en tout cas, voilà, quelque chose de très diversifié avec le sapin en essence reine, quoi. Donc voilà. Après, que dire d'autre? Oui, peut-être donc du coup vous présentez une action.
Une action de ta charte, ouais, la charte forestière. Enfin, c'est en tout cas une que tu aimes particulièrement, ouais.
Moi, je les aime toutes. Mais je vais en présenter une. Je vais en présenter une particulièrement parce que c'est une action sur le temps long. Enfin, en tout cas, qui est pas à court terme et qui est pas concrète, on va dire à court terme. On a essayé et on a réussi. D'ailleurs, on a commencé à mettre en place sur plusieurs communes du territoire ce qu'on appelle un aménagement foncier agricole, forestier et environnemental. Alors, c'est un peu un gros mot de l'administration,
oui.
En gros, pour dire un remembrement forestier.
Un remembrement forestier, d'accord.
Voilà, c'est ça. Alors, je voulais en parler parce que le remembrement, c'est un petit peu quelque chose qui a pas beaucoup la cote, notamment quand on entend parler de remembrement agricole. C'est vraiment ce qui a transformé nos paysages agricoles et ce qui a donné ces grands paysages de la Beauce, etc., des paysages agricoles pas très diversifiés. Et du coup, voilà, je vais en parler parce qu'aujourd'hui, on peut faire des remembrements en forêt qui arrivent vraiment à prendre en compte une grande dimension environnementale et qui prend en compte vraiment les attentes des habitants du territoire. Donc, je voulais parler de ça. En fait, il faut se rendre compte qu'en forêt, le foncier, c'est vraiment le bordel. C'est-à-dire que c'est très morcelé. On a énormément de petits propriétaires forestiers qui ont des petites parcelles un peu partout. Donc c'est assez difficile à gérer. Et en fait, nous, sur notre territoire, ça a pour conséquence, souvent, on voit arriver des exploitants, on va dire, peu scrupuleux, qui vont proposer de l'argent facile, en gros, à ces petits propriétaires forestiers qui vont accepter de vendre leur bois. Et en fait, c'est comme ça, l'exploitant arrive et souvent réalise de grosses coupes rases qui détruisent un petit peu le paysage, qui mettent à nu les sols et qui du coup donnent pas beaucoup d'avenir à des peuplements forestiers qui pourraient avoir un bel avenir. Et puis on a des destructions de chemins ou quoi, donc il y a beaucoup de problèmes de voisinage. Souvent, il y a des problèmes de vol de bois. Donc, ce bazar sur le foncier forestier, derrière, ça a pour conséquence un grand bazar dans les villages. Après, c'est le maire qui en prend plein la tête. Et les forestiers, ça donne une mauvaise image au métier de forestier. Donc voilà. Et en fait, l'idée de ce remembrement forestier, c'est justement de se dire, on va gommer tout ce qui est... On va gommer le cadastre. On va donner des gros coups de gomme sur le cadastre. Et on va redistribuer le foncier, donc on va redistribuer les terres forestières à chacun, en faisant en sorte que personne ne soit spolié, c'est-à-dire que d'être sûr que chacun retrouve au final la même valeur de forêt qu'il avait au départ. Aujourd'hui, il y a une grande dimension environnementale, donc il y a des prescriptions sur l'obligation de garder certaines continuités écologiques lors d'un remembrement, au cas où il y a des travaux, etc. Et voilà. Et l'idée, c'est que justement, quand on remet à plat le cadastre, eh ben, du coup, derrière, il y a des gens qui vont dire, bon, ben, finalement, moi, je me rends compte que j'ai de la forêt, mais ça ne m'intéresse pas trop, donc je veux bien la vendre. En face, il y a des gens qui vont dire, ben, moi, j'ai de la forêt et j'aimerais bien en avoir plus pour en faire quelque chose sur le long terme, sur le futur, donc je veux bien en acheter. Et du coup, voilà. Et c'est là, on arrive après à avoir un massif forestier qui est plus facilement gérable sur le long terme. Et voilà. Donc, en fait, concrètement, on ne voit pas grand-chose parce que c'est beaucoup d'études. C'est un gros travail avec les géomètres, les forestiers, mais aussi les agriculteurs qui ont des parcelles sur le territoire. Un gros travail avec les élus, avec les habitants, avec les associations. Et voilà, et c'est une démarche qui prend beaucoup de temps, qui est financée à 100% par le conseil départemental. Et donc, quand je dis beaucoup de temps, on a commencé en 2018 et ça prend environ 6 ans. Oui. Et voilà. Et donc l'idée, c'est vraiment que dans 6 ans, eh ben, on se retrouve avec un massif forestier, avec un cadastre qui n'est pas n'importe quoi. Et aujourd'hui, on a des gens qui ont des parcelles de forêt qui font 2 mètres de large sur 200 mètres de long. Donc forcément, ces gens-là, ils se disent, ma forêt, je peux rien en faire à part me promener dedans, alors que ça peut être intéressant de se mettre à la sylviculture ou au contraire de vendre sa parcelle à quelqu'un qui serait intéressé pour faire de la sylviculture.
Et est-ce que tu as dit, c'est sur un massif forestier, donc sur combien d'hectares? Vous avez une surface ou...
On l'a, mais je n'ai pas les chiffres en tête. Mais on est sur 4 communes.
4 communes.
Et on est même sur, sur ces 4 communes, on est même sur 3 massifs forestiers qui sont, on va dire, en continuité, mais on a 3 reliefs assez différents. Et on a à la fois des grandes forêts domaniales, gérées par l'ONF pour le compte de l'État, et à la fois des forêts communales, mais aussi beaucoup de petites forêts privées. Et du coup, voilà, en hectare, je ne sais plus, j'ai pas bien révisé mes notes.
Non, non, pas grave, pas de stress.
Et vous en êtes où, là?
Comment?
Du coup, les étapes déjà réalisées, vous en êtes où aujourd'hui?
Alors, aujourd'hui, donc, il y a eu un diagnostic du foncier. Donc, notamment, qui a mis d'ailleurs en lumière le fait qu'on avait beaucoup de biens qui étaient ce qu'on appelle des biens non délimités, des biens vacants et sans maître. Donc, il y a beaucoup de parcelles, on ne sait plus qui est propriétaire. Il y a beaucoup de parcelles, des fois, on a des parcelles où il y a 30 propriétaires sur la même parcelle. Donc, voilà, il y a eu un vrai diagnostic de tout le cadastre des forêts sur ce massif. Il y a eu un diagnostic aussi environnemental, donc qui a mis en lumière certaines zones où justement il fallait faire attention dans le partage du foncier pour être sûr que ces zones gardent toute leur continuité et du coup toute leur fonctionnalité.
C'est intéressant.
Et bien sûr, il y a eu un diagnostic forestier, donc qui a permis de mieux comprendre un petit peu ce qu'on avait comme peuplement forestier, la structure de cette forêt et surtout la valeur derrière de cette forêt. Donc là, on a eu ce diagnostic et maintenant, on va commencer la phase avec les géomètres qui vont en gros gommer le cadastre et qui vont faire des propositions de nouvelles parcelles, quoi. Donc là, comme on a eu les élections municipales, il faut tout représenter aux nouvelles mairies, aux nouveaux élus, pour être sûr que la démarche est bien comprise par tout le monde et que tout le monde soit conscient que ce qui prime, c'est vraiment l'intérêt général plutôt que l'intérêt de tel ou tel propriétaire ou d'exploitant. Et voilà. Et puis une fois qu'on est sûr que tout le monde a bien compris la démarche, ben, en avant Guingamp, quoi, c'est parti. On est tout à plat et voilà.
Et c'est parti.
Très bien, affaire à suivre alors.
Affaire à suivre, rendez-vous dans 6 ans.
Dans un peu moins de 6 ans, normalement.
Dans 4 ans, dans une prochaine émission Radio Bartas, je vous ferai le bilan.
Bien sûr, nous serons là. Et une dernière question. Est-ce que tu aurais une petite dernière question un peu différente? Est-ce que tu as un arbre préféré?
Oui, bah, si j'étais chauvin, je dirais le sapin, le sapin de l'aube.
C'est ça.
Mais après, j'avoue que j'aime beaucoup les chênes, les châtaigniers pour la possibilité de faire pousser des truffes dessous.
Genre des champignons, quoi.
Ouais.
Des truffes. Ah non, des truffes, t'as dit.
Des truffes. Ouais. Truffes.
Ah, j'avais pas compris, pardon. Truffes, d'accord.
Ça, c'est intéressant.
Un cuisinier.
Comme
D'accord.
Bien, on va aller dans l'Aude, se faire cuisiner truffes.
Voilà.
Par Alexandre.
Voilà. Mais d'ailleurs, on a une action sur la trufficulture, sur, l'initiation et la valorisation de la trufficulture dans les peuplements de chênes.
Ah, bah, nous en parlerons à une deuxième émission, alors.
Et voilà.
Plein de sujets.
D'accord.
Bon, et ben, merci beaucoup, Alexandre, pour toutes tes informations.
Merci, Alexandre.
Et ben, merci à vous.
Et puis, à bientôt dans la Haute-Vallée de l'Aude.
Et ben, j'espère. Vous êtes les bienvenus.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
Dès les premières lueurs, oh, je sombre.
Fleurs de saison. Et nous avons maintenant au téléphone Émeric. Bonjour Émeric.
Bonjour.
Et tu vas nous présenter, comme à ton habitude, ta plante des bois.
Oui, alors je vous proposais de regarder d'un peu plus près les plantes grimpantes en forêt.
Très bien.
Au Parc national des Cévennes, on s'intéresse beaucoup à la biodiversité des forêts. Et le fait d'avoir des plantes grimpantes sur les arbres en forêt, eh ben, ça améliore la biodiversité plus qu'il n'y paraît. C'est-à-dire que le lierre, la vigne, la clématite, le houblon même, ou même la salse pareille, ceux qui connaissent la salse pareille, qui pousse
les
chênes verts,
sont
des plantes
des
grimpantes,
oui, oui.
Qui produisent la plupart des fruits, et des fruits qui vont intéresser beaucoup les oiseaux. Alors non seulement ça sert de garde-manger, mais ça sert aussi d'abri à une multitude d'oiseaux, mais aussi une multitude d'insectes qui se plantent là-dedans. Donc c'est intéressant pour la biodiversité d'avoir des plantes grimpantes. Alors le lierre, plus particulièrement, ça s'intéresse à lui, il est mal aimé parce qu'on a toujours l'impression qu'il squatte la forêt, qu'il pique de la lumière aux arbres, etc. Et on s'est aperçu... Alors là, je vous conseille de lire La Hulotte, ce sera plus simple, hein. je vais faire un raccourci de ce que j'ai lu dans La Hulotte, c'est une revue qui est passionnante sur la biodiversité en général. Et dans La Hulotte, ils rapportent des chercheurs anglais qui ont étudié deux forêts, une où ils avaient supprimé tout le lierre, et juste à côté, la même forêt où le lierre poussait. Ils ont étudié la croissance des arbres, et ils ont mis en évidence que la forêt sans lierre ou la forêt avec lierre, eh ben, les arbres poussaient à la même vitesse. Donc le lierre n'a pas d'impact. Et pourquoi il n'a pas d'impact? Parce qu'il paye son loyer en donnant des feuilles au sol. Et les feuilles sont très, elles enrichissent fortement le sol. Enfin, ça, c'est des petits détails qu'on apprend dans ce bouquin sur la hulotte. Bon, sinon, tout le monde a vu des abeilles bourdonner sur les fleurs de lierre à l'automne. Et ce nectar de lierre est très important juste avant l'hiver pour faire des réserves pour les ruches. Qu'est-ce qu'on connaît encore sur le lierre? Eh bien, le lierre, je ne sais pas si tout le monde a fait gaffe, mais quand on se balade en forêt, on n'en voit pas au-dessus de 1000 mètres d'altitude environ. C'est que le lierre ne supporte pas les gels prolongés. Et donc, au-delà d'une certaine altitude, il disparaît. Donc, on n'en voit que dans nos forêts plutôt de chênes, et dès lors qu'on arrive dans les forêts de hêtres, on n'en a quasiment plus. Et puis, ce qu'on peut raconter, ses usages, il a plein d'usages. Alors, il y a plein de croyances aussi hein, sur le lierre. Notamment, on croyait qu'il préservait de l'ivresse. Donc, après s'être gavé de vin, on pouvait prendre quelques baies de lierre et on était garanti de continuer de droit sa route. Mais ça ne marche pas du tout.
Et c'est pas toxique, les baies de lierre?
Si, en plus, ouais. À forte dose, les baies de lierre sont toxiques. À plus petite dose, elles ont été utilisées pour plein de maux. Mais c'est plus ou moins abandonné. Il y a toute une liste de maladies que pouvait soi-disant guérir le lierre. Je peux en faire une liste assez hallucinante. Là, je suis sur un ouvrage qui parle des plantes médicinales. C'est utilisé contre les crachements de sang, contre les maladies de la rate, contre les maux de tête, la jaunisse, l'insomnie, les maladies de peau, les engorgements des ganglions, la surdité. Enfin, bref, j'arrête là, il y en a plein. Et faut croire que il y a des propriétés médicinales, mais qui sont avec des effets secondaires très importants, donc c'est plus ou moins abandonné aujourd'hui. Sinon, les baignoires ont été utilisées aussi pour faire un colorant très très efficace, notamment pour faire les costumes lors des enterrements, les costumes noirs, mais pour tout ce qui était colorant noir, c'était très très utile. Et un autre usage, mais très très anecdotique, c'est que le bois est très fibreux, le bois de lierre. Et quand on cherche à faire du feu sans briquet, c'est pour les hommes préhistoriques ou ceux qui veulent jouer les trappeurs, on peut, par frottement d'une tige sur un bois de lierre, on peut faire une sciure qui s'enflamme assez facilement. Voilà, ça c'est une petite anecdote sur le bois de lierre.
Voilà, est-ce qu'on ne fait pas de la lessive avec?
Non. Pardon?
De la lessive.
De la lessive, ah ben ça c'est toi qui me l'apprends. Ah, ben, j'ai jamais essayé.
Je crois, mais je ne suis pas sûre. Il faut à vérifier.
Voilà. Voilà, c'était un peu pour évoquer une plante qui est très très commune hein, dans nos forêts et qui est assez majestueuse, qui peut monter jusqu'à 10, 15, 20 mètres hein, de hauteur. Qui est évidemment pas très bienvenue dans un verger parce qu'elle fait de l'ombre et qu'il y a moins de pommes dans un pommier qui est envahi de lierre. Mais quand il s'agit de de coloniser un arbre mort, ça peut donner ce qu'on appelle des arbres lières qui sont assez fantastiques. Et je sais que tout le monde n'a pas conscience que les arbres lières sont intéressants, mais d'abord c'est très très beau. Et j'ai eu au cours de ma carrière une mauvaise expérience sur un arbre lierre que je pensais reconnu par la commune, et puis la commune a fini par le détruire sans ménagement, et j'ai trouvé ça dommage parce que les arbres lierres peuvent être vraiment remarquables. Voilà. Je préférerais que chacun se procure et s'abonne à la Hulotte et découvre que
c'est revue. Alors comment fait-on ?
lahulotte.fr, hein, et s'abonne à cette revue qui est extrêmement riche et très amusante, bourrée d'humour, et on apprend plein de choses. Chaque 2 à 3 mois, il y a un numéro qui parle tantôt du lierre, tantôt du pic noir, tantôt de la coccinelle. Enfin, c'est très très fouillé. Et il y aura beaucoup plus d'infos que ce que je viens de dire, mais j'en ai dit quelques-unes. Voilà.
D'accord, et bah très bien, merci Aymeric.
Merci.
Bah de rien.
Et puis à bientôt sûrement pour une autre plante des bois.
Oui, avec plaisir.
Merci, à bientôt.
Au revoir.
Au revoir. C'était Palabre en forêt, et à bientôt pour une nouvelle émission.
À bientôt.
Plaquer mon chêne comme un saligo, mon copain le chêne, mon alter ego. J'ai maintenant des frênes, des arbres de Judée, tous de bonnes graines, de hautes futaies.
Palabre
en forêt,
l'émission Lozéro-Gardoise
qui dévoile et décrypte
l'actualité de nos forêts et de la filière bois.
Les initiatives locales et les actions d'ici et d'ailleurs sur la forêt.
Rendez-vous
un mardi sur deux
à 10h sur Radio Barthas 107FM.
Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter des yeux.